Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone, émission spéciale depuis Erevan en Arménie, à l'occasion du sommet de la francophonie. Nous allons vous faire vivre cet événement et déambuler dans la ville avec nos invités. Nous vous révélerons le lauréat du prix des 5 continents de la francophonie qui a été décerné ici cette semaine avec un jury prestigieux. Nous serons avec l'auteur et des membres du jury pour décrypter ce prix des 5 continents 2018. Nous irons dans les rues d'Erevan avec l'écrivain haïtien Lionel Trouillot. Il vient de publier un roman flamboyant avec deux personnages de deux mondes différents, une réflexion sur la pauvreté confrontée à la richesse. Nous ferons un détour par nos studios pour l'actualité des livres de poche avec le collectif suisse Lajar et le chanteur Raphaël. Et puis il sera question de Charles Aznavour, bien sûr, qui aurait dû être parmi nous, ici en Arménie.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont avec nous en multiplex d'Erevan. On part tout de suite au Canada, à 8600 km, direction Montréal. Bonjour Jérémy Laniel.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Carcajou à Rosemère. Tout va bien pour vous Jérémy?
Tout va toujours bien pour nous à Rosemère.
Très bien. Bonjour Mathieu Colombe.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en France, vous à Aix-en-Provence, dans la librairie Goulard, dans les studios de Radio France. En Belgique, c'est Déborah Damblon qui est avec nous depuis sa librairie La Licorne à Bruxelles. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Et bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Suisse à Boudry, vous êtes la plus proche d'Erevan en fait, à 4249 km on a calculé. Je vous envoie un avion si vous voulez.
C'est gentil.
Le temps de rejoindre l'écrivain haïtien Lionel Trouillot au cœur d'Erevan. On commence avec une musique qui fait danser les Erevanais en ce moment même. Depuis cet été, on écoute ici le duo Ando et Rafo avec son titre Lady Kobouleti qui est numéro 1 partout en Arménie.
Ելով պրճոտ, կանայք լողած գեզ, երկար ամաշկոտ, էրեղ է կիշ ու խուրդ, աղեք է պիվա են մխում, լողապում հայերը իրավիճակ են բոխում. Ու հենց այն տեղ սևցովի ապին, կեզ հանդիպեցին կարած մեկ ապին, մազի է դրի հար, մարմին է դրի հատ.
La librairie francophone.
Émission spéciale.
Et nous voici arrivés dans le centre d'Erevan avec Lionel Trouillot qui nous accompagne dans ces rues de la ville d'Erevan ici en Arménie. Bonjour Lionel Trouillot.
Bonjour.
Comment allez-vous Lionel?
Eh bien ça va.
Merci beaucoup de nous accompagner dans ces rues d'Erevan. Vous êtes ici cette semaine au sommet de la francophonie dans le cadre du prix des 5 continents dont nous allons vous révéler le nom et la nationalité tout à l'heure dans la troisième partie de l'émission. On est dans un lieu très animé, très commercial aussi, avec ici une rue piétonne qui est centrale ici à Erevan, qui monte un petit peu car on est en altitude. On est à peu près à 1000 mètres d'altitude à Erevan. Et on a en face de nous, Lionel, l'opéra.
Les monuments sont très beaux ici. Enfin, les édifices, de manière générale, me semblent très beaux. Les églises, je ne les fréquente pas, mais elles sont très belles. Et même l'opéra, les théâtres. J'ai remarqué qu'il y a un nombre imposant de théâtres dans cette ville. C'est intéressant, contrairement à chez moi, où il n'y en a pas du tout.
Alors ici, l'opéra, en fait, il y a le village de la francophonie où nous irons tout à l'heure avec Abdourahman Ouabéry et avec Lise Bissonnette, puisque nous parlerons du prix des 5 continents avec eux là-bas. Il y a des stands de tous les pays. Mais on commence, Lionel, avec une histoire dans cette émission. On va rester fidèle aux traditions, même ici en Arménie. quelle anecdote, quelle histoire vous est arrivée, histoire étonnante, à travers vos voyages francophones, par exemple, tiens.
Il y en a une, je peux la considérer comme étonnante parce que les propos sont tellement déplacés, mais on m'a fait cette question au moins deux fois. Je parlais dans une librairie à Paris et j'avais fini mon petit baratin. J'étais fatigué, je voulais partir. Et la libraire a demandé s'il y avait une dernière question. Il y a un monsieur qui se lève, je fais semblant de ne pas le voir parce que je veux partir. Il insiste et il me pose la question suivante. Alors monsieur, vous parlez si bien français, vous écrivez si bien le français. Est-ce que finalement la colonisation, elle n'avait pas eu quelque chose de bien?
Ah oui, quand même.
Celle-là, elle m'est restée.
Avec une jeune femme qui chante juste devant nous, une voix magnifique. Il y a des surprises comme ça dans les rues d'Erevan. On pourrait croire que c'est organisé, mais c'est complètement imprévu, Lionel Trouillot. On fait des rencontres au fur et à mesure qu'on se promène dans ces rues, avec une ville très étonnante, des musiciens, une sorte d'apaisement et de bien-être à Erevan.
C'est vrai, c'est l'impression que j'ai dans les quartiers qu'on a visités.
Bon, on va aller de l'autre côté, Lionel, on va se rapprocher de la place de la République, qui est une place centrale, la grande place d'Erevan. Et on va parler de votre livre, Lionel Trouillot, est dans la librairie francophone cette semaine.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Alors Lionel, vous avez publié « Ne m'appelle pas capitaine » chez Actes Sud, un court roman fascinant qui se déroule en Haïti mais qui est universel. Une jeune fille, issue de la bourgeoisie, va se confronter à un quartier pauvre et populaire, comme on peut le voir ici à Erevan, et dans de nombreuses villes hein, d'ailleurs, deux mondes comme ça se côtoient mais ne se connaissent pas.
Oui, je pense que c'est le cas en Haïti. Je travaille à partir d'Haïti puisque c'est la réalité que je connais le mieux. Mais je ne pense pas que cela soit spécifique à Haïti. De toute manière, nous vivons dans un monde actuellement où les écarts dans tous les pays du monde, entre riches et pauvres, ne font que se creuser.
Attention à la marche, hein, parce que on a des marches très hautes là pour traverser. Et on arrive place de la République, ici à Erevan en Arménie. Là aussi, énormément de lumière, avec des bâtiments en arc de cercle. On est sur une place qui est investie par une scène, puisque évidemment dans le cadre du sommet de la francophonie, il y a des concerts. Et puis sur cette place centrale, avec une fontaine illuminée de rouge, on a des coursives, on a des colonnes de pierre massives, des bâtiments très massifs, on pourrait se croire à Kiev par exemple, dans certains endroits de Moscou. Et on a cet héritage, évidemment, ça a été construit avant 1991, date de l'indépendance de l'Arménie.
Ben, c'est très beau. C'est très beau, ça a un côté un peu austère, mais c'est très beau. Et je dois dire que ça fait contraste avec ces immeubles un peu modernes qui font commerce actuel, un peu farfelu. Donc il y a cette sorte d'élément massif. Et aussi il y a ce côté un peu plus moderne, je dirais, un peu plus ville américaine.
Ici à Erevan, il y a des quartiers très différents, Lionel Trouillot, des lieux de vie populaires, des endroits très pauvres sur les hauteurs, et puis de belles vitrines au centre-ville, comme on l'a vu, et puis des produits comme ça de consommation qui sont inaccessibles pour la majorité des Arméniens. Le salaire moyen ici est de 275 euros pour avoir une valeur étalon. Un peu comme en Haïti, c'est encore plus faible, donc il y a les mêmes inégalités en fait.
Et oui. Et en plus, en Haïti, il y a quand même une bonne partie de la population qui ne travaille pas. Il faut réaliser qu'un grand nombre d'Haïtiens vivent avec moins de 2 dollars par jour. C'est terrible. Mais vous savez, ici, j'ai quand même remarqué dans cette atmosphère un peu de riche de consommation, qui est celle de cette ville, de temps en temps, on voit passer quelqu'un et on voit la misère sur son visage, dans sa façon d'être vêtu.
Alors justement, puisque vous parlez de ça, Lionel, dans une rue d'Erevan, tout à l'heure, j'ai vu une vieille dame abîmée par la vie, édentée, les cheveux blancs en pagaille. Elle était assise comme ça sur un trottoir, avec une bassine remplie de citrons jaunes, des citrons luisants, très frais d'ailleurs. Et puis, elle discutait avec un jeune homme comme ça, bien habillé, debout. Le jeune homme, il se parlait, il ne marchandait pas les citrons, mais elle lui racontait quelque chose. Et ça m'a exactement fait penser à votre livre. Partout dans le monde, on peut voir ce genre de scène. C'est ce qui se passe entre le capitaine et Aude. Ils échangent à un moment.
Ils échangent, sauf qu'ils sont presque dans un rapport d'égalité. Parce que le capitaine, il a quand même pu mener sa vie. Il ne crève pas de faim. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lui, il est plutôt porteur de la parole des autres. Et plus que le capitaine, ce qui dérange Aude, c'est de découvrir cette condition des autres dont le capitaine se fait un peu le porte-parole. D'ailleurs, à un moment, elle dit « Sa bouche est une vie des autres ».
Alors, c'est vrai que quand on écoute le récit des autres, Lionel Trouillot, on regarde sa vie autrement.
Oui,
c'est ce qui se passe dans votre livre.
Tout à fait. Il faut ramener les individus à un peu de modestie. Il faut pouvoir se regarder, non pas dans sa vanité « je veux tout », mais en mettant sa propre condition en comparaison avec d'autres conditions. Les gens, ils ne font pas ça.
Et du coup, quand on lit votre livre, Lionel Trouillot, on s'aperçoit que se confronter à d'autres lieux permet de reconsidérer sa vie.
Totalement, dans les grandes comme dans les petites choses, il faut toujours être habité par le doute. On a trop de certitudes sur ce qui pourrait faire notre vérité humaine. Tant qu'on n'a pas été à l'épreuve, justement, de l'autre, de conditions historiques, de situations, on est justement une enfant gâtée ou un enfant gâté par la société. Je pense qu'il y a des sociétés qui produisent beaucoup d'enfants gâtés. Je pense.
Oh là, un accident quasiment en direct devant nous. Non, ici, on rigole pas. Hein. Ça a été limite. On va se trouver un endroit calme et on va écouter nos libraires qui ont lu votre livre, qui sont en multiplex à travers la francophonie, Lionel Trouillot, depuis Erevan. On va s'installer là, dans un joli patio, avec un bâtiment très moderne et une fontaine, et on va écouter les libraires ici, là. On commence avec la Belgique et avec Déborah Damblon. Quel est votre avis, Déborah ?
Eh bien, moi, plus encore que vos récits, ce qui me plaît chez vous, Monsieur Trouillot, c'est votre façon rude et puissante d'utiliser la langue. Et moi, il ne faut pas trois lignes pour me sentir emportée et parfois même malmenée par vos mots. Et en littérature, eh bien, je trouve que c'est bon parfois de perdre le contrôle et de se laisser entraîner et puis de plonger ailleurs. Alors, vous travaillez sûrement beaucoup vos textes, mais moi, je leur trouve une spontanéité et une authenticité qui est terriblement naturelle à mes yeux.
Merci, Déborah. Attention à Jérémy Laniel au Canada, souvent le plus dur d'entre tous. Votre point de vue, Jérémy ?
Je ne suis pas d'accord avec Déborah pour la simple et bonne raison que ça m'a pris plus que trois lignes pour embarquer dans ce livre. La langue est tellement dense que parfois j'ai eu l'impression d'y être seul, mais après quelques pages, voire quelques chapitres, l'auteur nous ensorcelle. La phrase fonctionne, ça se fonctionne en spirale, en écho. Le lecteur devient Aude, hein, à la recherche d'un réel qu'on ignore. C'est un très, très beau livre.
Ça vous va, Lionel?
Mais non, j'ai pas le choix.
Et Dominique Bressou est la dernière. Alors allons-y, Dominique, êtes-vous d'accord?
Alors oui, totalement, mais en fait... Une fois qu'on est embarqué, c'est un livre vraiment impossible à lâcher avant de l'avoir fini. Le lecteur est projeté dans un autre monde dès le début, dans un monde totalement bipolaire. Et en fait, et c'est ça que j'ai le plus aimé, les deux personnages principaux vont évoluer tout au long de ce livre en se confiant petit à petit leur désespérance. Et ils réussissent non seulement à échanger d'un monde à un autre, mais même à changer leur façon de vivre. C'est un récit non seulement haletant, mais magnifique.
Ah ben.
Eh ben quoi ?
Je suis très heureux.
Il y a les valeurs de l'éducation aussi dans ce livre. Plein de choses, hein, Lionel Trouillot. Il y a le capitaine qui dit à Aude à un moment « Tu veux savoir la différence entre le passé et le présent. Hier, il y avait une armée de parents pour te guider vers l'âge adulte. » Et ça, ça change tout, surtout dans un milieu pauvre.
Ça change tout. C'est vrai que dans les bonnes familles, ce qu'on appelle les bonnes familles, on a beaucoup de parents, on a les voisins qui sont aussi des parents, quand les quartiers existent encore de manière resserrée, on a tout un monde qui nous dit, voilà comment tu dois devenir. Et parfois ça nous écrase. Ça écrase les individualités. D'être dans ce devoir de reproduction du même, surtout dans les milieux bourgeois en Haïti où c'est horrible, avec le mépris du populaire, avec la distance comme seul signe de distinction. Maintenant, dans les quartiers pauvres, ce sont des enfants qui grandissent seuls, littéralement abandonnés à eux-mêmes. Il y a d'un côté ceux qui sont écrasés par des traditions lourdes qui ne reproduisent que préjugés et mépris, et il y a ceux qui naissent sans aucun abri, sans aucune voix pour leur dire « Tu sais, tu pourrais voir les choses autrement. »
Merci beaucoup, Lionel Truyot.
Merci à vous.
On s'est retrouvé dans un lieu un peu particulier.
C'est vrai. Et c'est bien d'aller vers l'ailleurs.
Exactement. Ne m'appelle pas capitaine. C'est votre nouveau roman paru chez Actes Sud. C'est un roman absolument génial, très émouvant, qui va vous faire réfléchir sur la vie et sur votre propre vie. Merci beaucoup, Lionel. À suivre un détour par nos studios pour notre séquence Livre de Poche avec le chanteur Raphaël et le collectif suisse Ladjar. Et voici un voyage en Afrique avec la musique de la malienne Fatoumata Diawara et son dernier titre, Bonia, dans la librairie francophone. Fatoumata Diawara avec Bonia sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Dans l'actualité des livres de poche, un collectif suisse, l'AJAR, l'association des jeunes auteurs romans, a imaginé un livre fictif. Ils nous ont expliqué la démarche à Morges, en Suisse, en présence de notre chroniqueur immortel, Dany Laferrière. Ils ont même réussi à nous embrouiller. Mais en fait, qui est fictif ?
En fait, c'est surtout Esther Montandon, donc oui. L'auteur fictive mise en scène dans ce livre, qu'on a créé à l'occasion d'un festival au Québec en 2014, effectivement. Le thème du festival était le canular en littérature. On s'est demandé ce qu'on pourrait faire avec ça et on a créé cette femme née en 1923 qui a eu un petit succès d'estime quand même dans les années 50-60. Et puis, à qui est arrivée une chose effroyable au milieu de sa vie qui fait que pendant une dizaine d'années, elle n'a rien écrit, croyait-on,
ouais.
Jusqu'à ce qu'on découvre ses carnets.
Alors, vous avez inventé au départ un faux roman. Vous êtes allé au Québec chez Dany, hein, Québec en toutes lettres, vous connaissez ce festival. Et donc, vous avez dit, voilà, il y a une auteure en Suisse, magnifique, une auteure de référence pour nous. Et nous, on a écrit le faux roman. Sauf qu'il y avait un autre canular derrière, c'est que Esther Montandon, comme vous l'appelez, elle n'existe pas du tout.
Elle n'existe pas.
Vous avez berné tout le monde.
On a berné les visiteurs du festival, certains, pas tous. assez rapidement, on s'est aussi rendu compte que pour ce roman, on n'allait pas essayer de faire croire qu'elle existait. Donc, elle est fictive.
D'accord. Alors, il a été écrit à partir des carnets retrouvés, les soi-disant carnets retrouvés d'Esther, qui confie sa douleur après la mort de sa fille, Louise, 3 ans et demi, décédée brutalement. Et vous abordez donc, du coup, le thème du deuil lié à l'enfance, la plus grande injustice de la vie. Hein. Vous dites que l'on croit d'ailleurs toujours avoir le temps avec les enfants. Je ne sais pas si c'est vous qui avez écrit ça à Haute-Seine, mais il y a cette phrase « L'enfance, c'est croire que la vie ne s'arrêtera jamais ».
Alors, c'est la question de qui a écrit quoi, c'est pas très hasard d'y répondre,
bah non,
et c'est impossible de savoir,
oui,
en fait, tellement il y a des groupes de travail, il y a des groupes de relecture, donc il y a des gens qui n'écrivent pas mais qui relisent, tout est relu.
Qui corrigent, qui modifient. Ouais.
On n'aurait pas pu l'écrire si on n'avait pas été autant, en fait. S'il a pu exister, c'est parce qu'on est autant de sensibilité et de gens à avoir mis des petites touches, que ça a pu créer ça. Tout seul, aucun d'entre nous, sans doute, n'aurait écrit ce livre.
Ça a permis de s'approcher du
réel.
Est-ce
que je dois croire vraiment de tout ce que vous dites, puisque vous nous avez menti dès le début dans cette histoire? Est-ce que ce hasard, c'est ça, l'hasard,
oui,
n'est pas simplement une seule personne avec 17 fainéants?
Est-ce qu'Esther Montandon n'a pas inventé la jarre? C'est la question.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est Haute-Seine qui écrit tout.
En fait, je voulais savoir comment vous dites. Vous avez distribué votre. Vous parlez vraiment, vous dites que c'est parce que nous sommes aussi nombreux, nous sommes de sensibilités différentes. Mais en fait, c'est ça la littérature. Un écrivain, c'est plein de sensibilités différentes à travers une seule personne. Comment vous avez fait cette division du travail?
Alors, au début, ça s'est passé par. Comme disait Bruno, la. Aucun d'entre nous aurait eu envie ou l'audace ou je ne sais quoi d'écrire ce roman seul sur le deuil d'un enfant. Par contre, quand on dit qui veut écrire le fragment sur la première visite au supermarché après la perte de l'enfant, ça, tout de suite, ça rend le projet plus précis et là, tout à coup, un peu plus abordable. Parce que cette immense chose qu'aucun de nous n'a vécue, c'était pas possible que ce soit qu'un de nous l'écrive. Par contre, quand c'est divisé, ça devient envisageable.
Et ce livre collégial, Vivre près des tilleuls, est paru en poche chez J'ai lu. Et c'est l'heure de la chronique des libraires en multiplex. On commence avec un coup de gueule canadien. Jérémy Laniel, faites-nous rêver. Depuis Montréal.
Vegan mais pas plate, c'est publié chez Pratico Pratique de Jessie Nadeau et Pascal Hugo Caron-Quentin. Un livre de recettes sur le véganisme par deux anciennes vedettes de télé-réalité. Est-ce que j'ai besoin de mentionner autre chose? Je peux passer pour quelqu'un qui a beaucoup de mauvaise foi, mais tout de ce livre cherche de l'intérêt. Et à une époque où le livre de recettes n'arrête pas de se réinventer, on pourrait pas avoir plus pâle copie avec cette publication. C'est vraiment désolant.
Et il y a de très bonnes pizzas à la viande hachée ici en Arménie. Vegan mais pas plate aux édition pratico-pratique, on va encore avoir des problèmes. Merci Jérémy. Notre séquence jeunesse cette semaine est portée par la Suisse et donc par Dominique Bressou.
Alors oui, moi j'ai eu un coup de cœur pour Ils arrivent. Alors Ils arrivent, mais qui? Des monstres. Et qui les attend avec inquiétude? Eh bien la maîtresse d'école. Dans ce livre débordant de monstres divers et variés, plein de couleurs, mais un peu effrayant quand même, c'est le monde à l'envers, c'est une adulte qui a peur des monstres. Enfin pas vraiment, quand elle les connaîtra, elle verra qu'ils sont adorables. C'est Ils arrivent de Neyman, avec les illustrations magnifiques d'Albertine, aux éditions de La Joie de lire.
À partir de quel âge, Dominique?
Je dirais à partir de 5 ans, enfin, il y a plein de couleurs. Voilà, il y a très peu d'écrits en fait, mais c'est vraiment, on peut le lire très tôt.
Très bien, merci Dominique Bressou. En Belgique, on part dans le rayon de la poésie. Déborah Damblon, coup de gueule ou coup de cœur?
Ah ben un coup de cœur Emmanuel, mais pour une petite merveille, merveille aussi belle à lire qu'à regarder, c'est la poésie presque incomplète de Laurent Demoulin. Alors, il y parle de tout, du quotidien, d'aquatico-érotisme, si, si, de mouches sur le pain, de poèmes réguliers en vers irréguliers, et le tout est rythmé de gravures aussi poétiques qu'improbables. Et ben, c'est un recueil qui parle de la vie, quoi.
Laurent Demoulin, qui a reçu le prix Russell en 2017 pour Robinson. Merci beaucoup, Déborah. Dans le rayon des bandes dessinées, un coup de cœur en France, Mathieu Colombe.
Oui, total, sur l'homme invisible, adapté de Wells par Pontarolo.
Ah oui, magnifique texte.
Extraordinaire texte. En plus, chose intéressante, c'est que l'adaptation est un petit peu libre, c'est-à-dire que Pontarolo prend la liberté, il va créer vraiment quelque chose, tout en gardant une base très solide hein, sur le texte principal. Et ensuite, cette bande dessinée est servie par un trait que je trouve absolument adéquat. L'histoire est assez géniale, c'est un premier tome, il y en aura deux. Et je pense qu'il serait très dommage de passer à côté de cette bande dessinée.
Ça a l'air absolument génial, effectivement. L'homme invisible de Wells et donc Pontarolo aux éditions du Long Bec. Merci Mathieu.
Avec plaisir.
Un autre livre de poche est dans l'actualité en ce moment en librairie, celui du chanteur Raphaël qui a publié en 2017 un recueil de nouvelles, Retourner à la mer, qui a décroché le prix Goncourt de la nouvelle l'an dernier. Il vient de sortir donc en poche chez Folio.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
Il y a une tonalité impressionniste dans ces courtes histoires, Raphaël. Des sortes de méditations aussi, qui portent un regard sur la société, regard assez sombre, le massacre des animaux dans les abattoirs, la violence faite aux sans-domicile dans la rue également, le regard désabusé de certains de vos personnages sur la société. Il est où l'espoir, Raphaël ?
Je sais pas, c'est-à-dire je me pose pas tellement la question de comment je vais pouvoir matérialiser l'espoir en racontant des histoires. J'essaie juste de raconter les histoires que j'ai en moi. Et je trouve que je me dis pas non plus que c'est spécialement sombre. Il y a des histoires qui sont franchement marrantes dans les nouvelles, en tout cas d'après moi. Après, chacun son humour peut-être. Mais
non, il y a de l'humour.
Moi, ça me fait marrer. Ouais. Mais la première nouvelle, c'est l'idée d'un veau seul dans un abattoir pour la nuit. Voilà, c'est juste cette vision-là. Ouais. Et ensuite, on raconte un petit peu avant.
Et vous déclinez.
Un petit peu après.
Il y a la plus belle fille du monde aussi. Vous
ça,
savez,
c'est amusant, non
personne...
Non, ça vous... non, moi je sais.
Si, si, non, mais c'est juste que la plus belle fille du monde, le pas de bol, elle est nazie. Donc,
ça s'appelle une blague, ça. C'est quand même plutôt marrant.
C'est horrible, quoi. C'est
non,
le
c'est
type,
pas
il tombe sur la plus belle fille du monde. Il se dit, j'ai envie de coucher avec elle. Il arrive finalement, il se fait draguer par la fille et il découvre, étant lui-même juif, qu'elle est nazie, qu'elle est complètement fasciste. Enfin, c'est une horreur absolue. On est désespéré.
Non, on n'est pas désespéré. C'est évidemment une histoire inventée, amusante. Ça montre simplement que on peut accepter beaucoup de choses quand on est attiré par quelqu'un physiquement. Parce que le mec, très lâchement, est prêt plus ou moins acquiescer parce qu'il a envie de coucher avec elle. C'est une blague.
Il y a un entre-deux comme ça tout le temps hein, dans ces histoires avec, vous le dites à un moment, une mince couche de réalité. Et vous vivez dans quel monde, vous, Raphaël?
Je ne sais pas trop comment répondre à cette question.
Vous vous sentez
de vivre
comment
dans un... Non, mais moi je me sens très bien. Je me sens... J'essaye de m'intéresser aux gens, déjà d'aider les gens autour de moi, quoi, de...
Ouais.
Un peu, je crois que c'est la meilleure chose qu'on ait à faire. Ensuite, je fais des choses. Il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. C'est un peu le principe. Moi, j'aime pas tellement d'être confronté aux critiques. C'est-à-dire que les gens écrivent tout le temps des choses. C'est-à-dire que vous allez sur Internet, c'est un déversoir d'injures permanent. C'est dégueulasse, c'est nul, qui crève ou je sais pas quoi. Ce n'est que ça. Mais convoquer les gens pour leur dire que ce qu'ils font est nul, ça sert à rien. Ils peuvent rester chez eux. Moi, j'ai pas besoin d'être confronté à ça, ça m'intéresse pas.
La critique?
En face de vous, comme ça, quelqu'un qui vous critique.
Bah, c'est le débat culturel, ça.
Oui, mais. Moi, j'aime pas ça. Voilà.
D'accord.
J'aime pas y être confronté, c'est tout.
Bon, merci beaucoup, Raphaël.
Merci à vous, merci.
Le livre de Raphaël, Retourner à la mer, est paru en poche chez Folio. On poursuit notre voyage en Arménie et on vous emmène dans un lieu emblématique d'Erevan qui évoque Charles Aznavour. Aznavour, toujours très présent ici à Erevan. Le voici en duo avec sa fille Seda. Ils chantent tous les deux en arménien et on évoque le grand Charles juste après dans cette librairie spéciale Sommet de la francophonie en Arménie. Yes, Kurime.
Ashkarumas imandunis Bevurvatis, muravacunis Roshnelit nabadunis Randu shakari de manis Roshnelit nabadunis Randu shakari de manis
C'était Charles et Seda Aznavour. Je ne connais pas tes mérites. C'est la traduction française de cette chanson en arménien sur votre radio francophone. Et nous sommes à la maison Charles Aznavour sur les hauteurs d'Erevan où un hommage est rendu à l'artiste en marge du sommet de la francophonie avec la délégation présidentielle française. Eric Orsena et Hélène Carrère-Dancos font partie de cette délégation présidentielle française pour rendre hommage à Charles Aznavour ici à la maison Charles Aznavour. Bonjour Madame Carrère-Dancos.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ah ben je vais très bien. Écoutez, comment peut-on ne pas bien aller dans un voyage comme ça où, je dirais, à la fois la langue française est à l'honneur et Charles Aznavour est à l'honneur.
Alors Eric Orsena, l'Académie française est en force avec vous deux ici. Et c'est vrai que Charles Aznavour représentait la francophonie dans le monde entier. Et c'est un symbole très fort finalement de lui rendre hommage dans le cadre du sommet de la francophonie d'Erevan.
Vous savez, la langue française est notre maison. Donc on est dans la maison de Charles Aznavour. Et on est dans l'une de ces deux maisons qui est l'Arménie. Et c'est dans ces maisons que nous sommes nés. Moi, si je n'avais pas la langue française, je ne sais pas qui je serais. Mon pays, c'est la langue. Et comme lui, magnifiquement, j'essaye de la faire lire, vivre dans mes livres. Et au fond, on est arménien, là.
Chaque mot comptait, je vous ai entendu dire ça, Madame Carrère-Dancos, tout à l'heure. Chaque mot chez Charles Aznavour comptait, c'est vrai, dans tous les textes.
Oui, parce que Charles Aznavour avait un sens des mots. Il a vécu avec des dictionnaires, il le disait, et il ne se trompait jamais. Il avait une obsession. Moi, il m'a dit plusieurs fois, est-ce qu'il y a un mot qui vous choque? Est-ce que quelque chose n'est pas comme il faut? Il était perfectionniste et il a beaucoup apporté à cet égard. Et je vais vous dire quelque chose. On a toujours envie que les gens vivent plus longtemps. Mais en même temps, je me dis que mourir debout, comme il est mort, et juste sur le sommet de la francophonie, c'est-à-dire incarnation de cette francophonie, alors j'aurais mieux aimé qu'il incarne ça vivant. Mais c'est son destin. Et c'est une perfection. Je suis convaincue que de là-haut, il doit tout de même se dire « J'ai réussi jusqu'au bout mon existence ».
Vous savez, il y a une très belle phrase de Tacite qui est « Le seul tombeau des morts » et dans le cœur des vivants. Et vous voyez à ce point qu'il n'est pas mort.
Alors nous portons tous la francophonie, tous les trois là, chacun à nos niveaux, nous la portons haut et fort. Comment vous l'envisagez, l'avenir de la francophonie, Eric Orsena ?
Eh bien, vous savez, d'abord, ce qu'on a vu, et on le connaît depuis quelque temps, mais c'est de plus en plus ça, c'est que aucun pays n'est propriétaire de la langue. Et que la langue est nourrie par tout le monde. Et que 84 pays sont autant propriétaires de la langue française que nous-mêmes. Et qu'il faut simplement reconquérir et se battre. Nous, c'est pour rêver, pour tomber amoureux, pour s'émerveiller et pour s'indigner. Donc c'est ça la langue française. C'est ça, c'est la liberté et l'émerveillement.
Hélène Carrère-Dancos, à côté de vous, a l'air fière de vous, de ce que vous venez de dire.
Je dirais que nous sommes pas seulement immortels, on est inséparables. Hein, oui. Et on est très heureux d'être là ensemble.
Oui.
Et on partage au fond le même sentiment, oui, oui. Et je dirais la même fierté de notre langue. Et c'est vrai qu'une langue, c'est un corps vivant. Et c'est ça, il ne faut pas l'empailler. C'est une langue qu'on ne peut pas enfermer dans une petite boîte juste pour s'en servir et communiquer. Elle vit à sa manière. Et ce que nous avons à faire, c'est à accompagner cette langue. C'est ça la vie. Hein ?
Exactement. Merci à tous les deux. Merci Hélène Carrère-Dancos. Merci Eric Orsena.
Mais la vie est une librairie francophone.
Bon séjour à Erevan.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
sur cette musique de la BO du film de Robert Guédiguian, Le Voyage en Arménie. On arrive au village de la francophonie, installé pour le sommet de la francophonie ici à Erevan. Et c'est ici qu'a été remis le prix des 5 continents 2018 au Belge Jean-Marc Turine pour son roman La Théo des fleuves. On va en parler dans un instant. Le temps de passer les contrôles. Voilà, on a passé les contrôles. On a des chorales du monde entier là qui chantent face à nous. C'est assez étonnant, avec des chants et des animations, des stands un peu partout. Et ce Merci Charles avec une grande photographie de Charles Aznavour qui est installée à l'entrée de ce village francophone. Pendant que d'autres artistes s'installent sur scène, on passe devant le stand de Wallonie-Bruxelles, de la Côte d'Ivoire. Et nous allons parler donc de ce roman de Jean-Marc Turine, La Théo des fleuves, un roman humaniste sur le vivre ensemble. Et c'est exactement le thème de ce 17e sommet de la francophonie. Bonjour Lise Bissonnette.
Bonjour.
Vous êtes la célèbre journaliste et auteure québécoise. Et vous avez évidemment lu ce livre puisque vous êtes membre du jury de ce prix des 5 continents. Vous y avez pensé au thème du sommet quand vous avez désigné le lauréat?
Non, pas vraiment, parce que ce jury qui travaille pendant quelques semaines durant l'été se prépare à un événement qu'il considère comme hautement littéraire d'abord et avant tout. C'est d'autant plus vrai cette année que si on lit ce livre de Jean-Marc Turine, on s'aperçoit que vivre ensemble, c'est souvent une belle théorie. Mais si vous lisez le livre de Jean-Marc Turine, vous allez voir que vivre ensemble, c'est pas facile.
Non,
c'est vrai. Qu'au contraire, ça peut mener à une certaine désespérance. Il y a beaucoup de luttes, beaucoup de résistance, mais il y a souvent aussi beaucoup d'échecs.
Et les Arméniens très accueillants et très engagés finalement pour la francophonie, même si très peu parlent français.
Très peu parlent français et les gens qui nous voient partir pour le sommet de la francophonie, on quitte notre pays, on s'en va en Arménie, me dit « qu'est-ce que tu vas faire en Arménie ?» Ils ne parlent pas français ces gens-là, mais il suffit d'être ici pendant quelques heures et quelques temps pour s'apercevoir tout de suite que la francophonie c'est autre chose aussi. Il y a une sorte d'appétit pour le français qui est vraiment étonnant. Comme si le français était une bouffée d'air dans un peuple qui reste, chez un peuple qui reste assez isolé tout de même. Hein. Mais le français, on sent que le fait qu'on se déplace, que le sommet vienne ici en Arménie, a touché beaucoup la population arménienne.
Alors là, on a un groupe de jeunes de toutes les nationalités qui dansent sur la musique que vous entendez et tous les drapeaux qui se lèvent avec le Liban, on voit le drapeau du Liban, on voit le drapeau français, le drapeau québécois, toute la francophonie qui est sur scène ici à Erevan. Et on passe devant le stand du Liban. Et puis nos amis de France Média Monde aussi qui sont représentés ici. Et bonjour Abdourahman Ouaberi.
Bonjour Emmanuel Kérad, merci de m'avoir parmi vous.
Vous êtes originaire de Djibouti. Qu'est-ce que ça représente le sommet de la francophonie pour vous?
Écoutez, ça fait une occasion de retrouver tous les visages, tous les accents de la francophonie. C'est un lieu assez emblématique, c'est assez plaisant de se retrouver ici.
On vous connaît pour votre roman flamboyant et engagé aux États-Unis d'Afrique, un titre évocateur, L'engagement. C'est ce qui vous a plu dans le roman de Jean-Marc Turine?
Écoutez, ce qui m'a d'abord plu dans ce roman La Théo des fleuves, c'est une écriture d'un auteur assez mature. On rentre des plain-pieds, il n'y a pas de découpage classique. On se laisse prendre par la force de l'écriture de Turine et vous n'êtes pas lâché jusqu'au bout de la dernière page. Et tout ça avec une aisance, il n'y a pas d'effet de manche, il n'y a pas de... Voilà, c'est un homme mature qui sait tenir sa baguette.
Merci beaucoup Abdourahman Ouaberi.
Merci à vous Emmanuel Kérad.
Merci Lise Bissonnette.
Merci de m'avoir invité.
Nous allons déambuler dans la ville d'Erevan avec justement cet auteur, lauréat du prix des 5 continents, Jean-Marc Turine. On va parler de son livre En déambulation et on va vous faire découvrir de nouveaux lieux ici à Erevan.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Kérad.
Et bonjour Jean-Marc Turine.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un auteur et réalisateur belge, ami intime de Marguerite Duras. Oui. Vous avez presque vécu avec elle avant qu'on parle de votre livre. Il y a une grande histoire entre vous.
Il y a une grande histoire parce qu'elle a commencé complètement par hasard. C'est grâce à Delphine Seyrig en janvier 1971. J'ai reçu un coup de téléphone de Marguerite. À l'époque, c'était quand même Marguerite Duras que je vous voyais, qui me disait « Mais voilà, si vous êtes libre cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais plus, venez à Paris, je vous engage comme stagiaire sur mon film que je vais tourner bientôt. » Voilà. Je l'ai rencontré, donc je suis arrivé à Paris 3 jours plus tard. Et cette aventure n'a jamais cessé jusqu'à sa mort, c'est-à-dire en mars 96, ça a duré donc 25 ans.
Alors vous venez d'obtenir le prix des 5 continents de la francophonie, on en parlait à l'instant avec Abdourahmane Waberi et Lise Bissonnette. On est dans un autre lieu d'Erevan, un lieu emblématique, un lieu très fort, on va vous le faire découvrir. Vous avez publié ce roman, donc La Théo des Fleuves, paru aux éditions belges Esperluette. Et pour parler de ce livre qui évoque le vivre ensemble, nous sommes dans un lieu très emblématique pour l'Arménie, mais aussi pour le reste du monde. Je vous laisse nous dire où nous sommes.
Mais nous sommes au mémorial du génocide des Arméniens. Et c'est le premier génocide du XXe siècle. Suivront le génocide des Juifs et des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, c'est le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc effectivement, on a la chair de poule ici, parce que d'abord, il y fait très calme. Les gens parlent doucement. C'est un peu comme à Auschwitz-Birkenau. Quand on se promène, on peut être 500, 700, 1000. Tout le monde parle à voix basse. Il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Mais ce qui m'impressionne beaucoup, c'est que j'ai obtenu ce prix des 5 continents à Erevan. Et mon livre est axé en grande partie sur le génocide des Tziganes. Et je me retrouve dans la ville qui mémore le génocide des Arméniens.
C'est vrai qu'il y a 1,5 million d'Arméniens qui ont été tués, massacrés en 1915. Un véritable génocide que les Turcs et les Américains aussi ne nomment toujours pas. Ouais. Les Arméniens ont été pourchassés, refoulés, exclus de leurs terres. C'est aussi ce qui s'est passé pour les Tziganes dont vous parlez, Jean-Marc Turine.
Oui, il s'est passé et il se passe toujours quelque chose. C'est-à-dire que les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne et puis bien après la Roumanie ont reconnu le génocide des Tziganes. Mais les autres pays, ne fût-ce qu'européens, ne l'ont pas reconnu. Et ça reste quelque chose de tu. Et là, on approche, j'imagine.
Alors voilà, ouais. On est au pied d'une pointe, d'une flèche qui est très très haute, tout en béton, fabriqué d'une façon très austère, au final. Et puis, alors là, on a une sorte d'amphithéâtre.
On va descendre, là.
On va descendre, il y a des marches. Et c'est comme un peu comme un chaudron, hein, on dirait.
Oui, mais c'est très, très impressionnant de voir cette construction. Ça me fait penser au musée juif de Berlin.
Ouais.
Je ne sais pas si ça parle.
Il y a beaucoup de vent. Et puis voilà, effectivement, on a une flamme
perpétuelle qui
dans l'embrasure, finalement, on arrive à entrer.
C'est très, très beau. C'est beau. C'est une belle chose ici.
Alors, on va essayer de descendre, mais sans faire trop de bruit, parce qu'à mon avis, c'est un lieu de recueillement.
Il y a de la musique.
Autour de cette flamme, il y a des fleurs.
Oui, des œillets.
Des œillets.
On trouve des marguerites là-bas.
Qui entourent la flamme. Oui. Flamme, évidemment, placée
au centre.
L'espace est circulaire et les fleurs sont très bien rangées. C'est très précis dans l'organisation de la disposition des fleurs.
Oui. Ça fait pleurer une musique comme ça.
Ah, c'est dur, hein, oui.
C'est dur.
Et c'est vrai que dans votre livre, Jean-Marc, les Tziganes ont résisté par le départ, par l'exil vers l'ailleurs. Ils ont formé des communautés disséminées dans le monde entier, comme les Arméniens également. On estime à 1 million d'Arméniens installés au Canada et aux USA, 350 000 en France.
Ouf, ah oui, ce sont des chiffres impressionnants.
Alors, le lieu est très austère, hein, fabriqué de pierres grises. Oui. C'est un édifice qui s'élève vers le ciel. Un cercle dans lequel nous sommes, avec donc toujours cette flamme ici à Erevan. Il y a dans votre livre, Jean-Marc Turine, un personnage, la vieille Théodora, qui raconte son histoire dans sa région natale. Elle est retournée finalement y mourir, sur les rives du Danube. Oui. Et elle dira à un jeune garçon qui la regarde, « Traverse les frontières, va à la découverte du monde, foule la terre. Va comme je l'ai fait, même sans savoir où tu vas. Qu'importe de savoir où tu vas, puisque tu y vas.
Oui. » C'est quelque chose qui m'a fortement impressionné. Ça, c'est la capacité de certains, pas tous, à oser partir et franchir les frontières et trouver une forme de liberté et d'avoir aussi beaucoup plus d'humanité, peut-être plus de générosité à l'égard de ceux qui n'osent pas bouger, qui sont là dans leur histoire, dans leur timidité, dans leur peur viscérale, dans leur pauvreté économique. Et il y en a quelques-uns qui partent.
Et elle lui dit aussi « Métisse-toi le plus possible ». C'est ça aussi l'histoire, c'est ça son histoire. Un exil permanent, des rencontres, des adoptions et des histoires d'amour. On va remonter, Jean-Marc Turine, on va laisser les Arméniens qui sont autour de nous se recueillir, car il y a vraiment
une ambiance de recueillement ici. Et quand on sort, évidemment, on voit la flèche.
Magnifique, magnifique construction.
On retourne sur cette esplanade avec toute la ville d'Erevan qui est face à nous. On domine la ville, hein, du coup. Et ça nous permet de voir l'étendue de la capitale arménienne. On va aller dans un autre endroit, Jean-Marc Turin, ici à Erevan. Il y a des cascades en pleine ville. Derrière le Grand Opéra, c'est un lieu de rassemblement, de culture et de fête, à l'opposé finalement de ce mémorial. Et c'est aussi ça, la ville d'Erevan et l'Arménie. Il y a la liberté, un lieu de liberté. On y va ?
On y va.
Et nous voici donc arrivés à la cascade d'Erevan, 118 mètres de haut, en pente. Il y a 572 marches pour arriver au sommet. Il y a un grand message de paix dans votre livre, Jean-Marc Turin. Vos personnages, Théodora, Aladdin et Naoum, l'enfant adopté devenu adulte, vont sans cesse refuser la violence et refuser la haine.
Oui, ça me semble... Mais ça me semble très important parce que ils ont toutes les raisons de vouloir la vengeance, etc. Et je pense que... Enfin, j'estime, moi, je n'ai jamais été dans des conditions de vie pareilles, mais j'estime que ce n'est pas la peine. La vengeance n'est pas la peine. Ça ne mène à rien. On voit ça, par exemple, au Vietnam. C'est très rare, les gens qui en veulent aux Américains. Ils sont pacifiés. Bon, et là, c'est pareil. Ils sont sortis du génocide. Ils ont survécu. Tout le monde est mort. Mais voilà. Ils ne peuvent pas supporter l'injustice. Ils ne peuvent pas supporter la violence. Et donc oui, c'est un message de paix parce que on ne peut pas vivre avec la haine en soi. L'âme ne peut pas vivre de haine. Il faut, même si on n'a pas demandé à vivre, il faut quand même vivre. Et donc faire des belles choses. Sans avoir des belles choses, c'est pas la vie. Non, mais c'est ça que je pense vraiment.
Alors là, du coup, on a des paliers. Vous entendez l'eau derrière moi. Alors, on appelle cela cascade, mais... L'eau coule par petits filets, hein, ce n'est pas un torrent. Et il y a des étapes, en fait. Parce que là, on marche, on en a gravi une petite centaine, on va dire. Et puis, à chaque fois, on a des étapes avec des monuments qui sont installés autour de cette cascade et autour de fontaines créées à chaque étape. Ah oui, d'accord. Donc, il y a une route qui passe sous le monument final, la dernière étape, si on peut dire. Et une route, une voie rapide qui passe dessous. Attention Jean-Marc, il faut se tenir là parce que l'escalier est un petit peu, faut pas avoir le vertige quoi. Donc un bruit assourdissant et puis du vent, pas mal de vent. Et voilà, on est arrivé sur une sorte d'esplanade. Vous entendez le vent derrière, autour de nous des immeubles avec de belles terrasses, car c'est sans doute l'endroit où on voit le mieux la ville, puisque nous approchons du rebord, on y arrive, on s'aperçoit que toute la ville d'Erevan est devant nous.
L'opéra en face.
L'opéra qui est juste en face, où une partie des festivités de ce sommet de la francophonie se déroule. Pour revenir à votre roman, Jean-Marc Turin, il y a Aladdin et Naoum, ces personnages hauts en couleur. Ils sont magnifiques, ces deux-là, parce qu'ils vont prendre la route, comme des saltimbanques, pour réenchanter le monde d'une certaine manière. Et un jour, alors qu'ils sont en Cisjordanie, des coups de feu éclatent et touchent une petite fille, blessée au front, mortellement. Elle est dans une mare de sang et Naoum prend son corps, va face aux soldats, il fait face à eux et il pousse un cri de désespoir.
Qui est, encore une fois, pourquoi ? Dans le livre, j'ai écrit, il aurait pu parler la langue des... Parce qu'il est d'origine juive, cet enfant. Il aurait pu parler la langue des Israéliens, l'hébreu. Oui, c'est le pourquoi. Et puis, il va sombrer dans une forme de folie ou de maladie, que sais-je.
Alors, on en pleure hein, quand on lit ce passage. J'en marque vraiment parce que Naoum devient fou. À ce moment-là, alors qu'il a vécu des choses terribles, dès l'enfance, il se fait recueillir. Et puis, par Théodora. Et puis, c'est difficile, cette vie-là. Mais ce qui le fait basculer, c'est de voir cette petite fille morte. Et il va passer 20 ans interné dans un hôpital.
Et je dis même qu'il a gonflé comme un bibendum, mais c'est une image comme ça, mais ce n'est pas du tout rigolo. Non, effectivement. Et c'est là où je pense que Naoum et Théodora Et Aladdin ont raison, c'est pas la peine, la haine. La haine, ça mène à la mort. Ou bien tu deviens psychopathe, ou bien tu tues. Mais tu tues, tu vas en prison, ou bien tu es abattu. Donc là, je dis pas qu'il faut pardonner, il faut surtout pas oublier, c'est pas ça. Mais il faut essayer de vivre autrement qu'avec de la haine en soi. Je crois que personne ne peut vivre avec de la haine en soi. Ça enlève la poésie, ça enlève le soleil, ça enlève la pluie, ça enlève tout. Tu es gonflé de haine et de rancœur par rapport à la vie. Tu n'apportes rien. Tu n'apportes rien. La haine n'apporte rien.
La perte d'humanité rend fou.
Ah, je pense, oui. Cette violence rend fou. Je pense que beaucoup de soldats deviennent fous à cause de ça, que ce soit les Français d'Algérie, que ce soit les Américains au Vietnam. Et quand ils reviennent d'Irak, etc., il y en a combien qui ont sombré dans une forme de folie parce qu'on leur demande, on exige d'eux beaucoup trop de choses qui sont inhumaines. Voilà.
Vous entendez le son de la ville d'Erevan derrière moi. Nous dominons cette ville avec Jean-Marc Turin à 78 mètres d'altitude. Et nous la voyons, cette ville d'Erevan, avec au loin le symbole de l'Arménie aussi, le mont Ararat, qui est désormais sur le territoire turc et qui symbolise les douleurs du peuple arménien, mais aussi la paix retrouvée. Merci beaucoup, Jean-Marc Turin.
Merci, Emmanuel Kérad. C'était magnifique, ce séjour extra. Et merci de la rencontre.
Merci à vous. La Théo des Fleuves est paru aux éditions Esperluette et c'est le prix des 5 continents de la francophonie 2018. Lisez absolument ce livre. Merci Jean-Marc. Merci beaucoup.
Merci Emmanuel.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici la chanteuse Bertille. Avec Je plonge, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur internet. Et c'est la fin de cette édition, je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation Marie-Hélène Fauquet avec Étienne Bertin et Arnaud Caillé. À la rédaction Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. Un grand merci à l'OIF pour son accueil ici au sommet de la francophonie d'Erevan. La semaine prochaine, nous serons avec le dessinateur Luz et le comédien et écrivain Philippe Torreton, entre autres, de retour en studio. Bonne semaine et bon week-end à tous.